Bonjour, je me trouve en excellente compagnie, en l'occurrence là, à côté de Aymeric Monville, bien connu comme directeur ou cofondateur ou fondateur même des éditions Delga, qui publie que de la bonne littérature, que chacun d'entre vous connaît évidemment, et qui revient, c'était il y a quelques semaines, c'était cet été, d'un voyage inattendu, pour moi au moins, au Xinjiang. Donc, est-ce qu'il était inattendu ou est-ce que c'était une longue préparation, Aymeric ?
Oui, ça fait longtemps qu'on parle du Xinjiang, et bravo Bernard, parce que toi tu as l'ancienne prononciation qui date d'avant le Pinyin, qui c'est la prononciation de l'école française d'Extrême-Orient, et ça prouve que tu n'as pas découvert l'existence du Xinjiang avec les médias, et que tu savais, contrairement à beaucoup de politiciens qui font de la propagande dessus, tu sais où le passer sur une carte, voilà. Donc, mais je le précise quand même pour les auditeurs plus jeunes, effectivement, le Xinjiang, ça veut dire nouvelle frontière, et c'est une région de l'ouest de la Chine qui est grand comme trois fois la France, même si elle n'est habitable en fait que sur 9,7% du territoire. Et voilà, et elle est peuplée à 45% de Ouïghours, qu'il faut prononcer Ouïrours hein, si vous voulez, mais la plupart des gens maintenant prononcent Ouïghours. Et c'est pareil, bah, c'est un peuple extrêmement sympathique qui a toute une richesse patrimoniale extrême, surtout dans le domaine musical, dans le domaine des danses, de l'habillement, et qui parle une langue turcique, hein, non pas une langue turque, hein, parce que le turc est lui-même une variété de ce groupe qu'on appelle turcique. Voilà. Et donc ils ont été sous les projecteurs de l'actualité, puisque les Américains en ont fait le sujet d'une nouvelle provocation pour les Chinois. Alors la plupart du temps, ça suit toujours le sens des aiguilles d'une montre, hein, parce que donc il y avait le Tibet, là c'est les Ouïghours, donc les prochains sur la liste c'est sans doute la Mongolie intérieure, donc peut-être irais-je dans le Gezerg Gobi, là on se reparlera peut-être l'année prochaine. Pour l'instant ils n'ont pas encore déclenché quoi que ce soit, à ma connaissance encore, mais à mon avis c'est sur les cartes. Et puis bon, vous avez aussi ces campagnes récurrentes sur Taïwan, sur Hong Kong, et bon, il s'agit toujours de morceler la Chine, hein, c'est toujours les guerres de l'opium, les traités inégaux, voilà. C'est toujours. D'ailleurs, je pense que les Occidentaux ne se rendent pas compte à quel point c'est extrêmement douloureux, ce fait de dire aux Chinois que, effectivement, la Chine, c'est la vision qu'ils en ont et pas une autre. Et surtout, c'est leur dire votre territoire, c'est ça, mais pas ceci. C'est comme si on disait en France, la Bretagne, c'est pas français, la Normandie, c'est pas français. Okay. On ne se rend pas compte à quel point ça attise les tensions. Hein. Voilà. Et puis surtout, c'est douloureux, ça rappelle quand même une histoire de morcellement. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas sous contrôle colonial total comme certains pays africains ou sud-américains qu'ils n'ont pas vécu ça comme une humiliation. C'était surtout pour. Rappelons quand même, les Français n'ont pas tellement en tête d'ailleurs. Ils connaissent peut-être plus notre histoire coloniale, j'allais dire directe en fait, mais le sac du palais d'été sous Napoléon III. Ils avaient été à Pékin, ils avaient littéralement ravagé cette merveille. Et bon, pour dire que c'est pas les Français contre les Chinois, moi je fais jamais de politique identitaire, heureusement. Bon, on sait que Victor Hugo s'était élevé, il a fait une lettre magnifique. Hein, bon. Enfin, les lettres, au moins il avait émis une protestation au nom du peuple français contre ça. Et la France, c'est à la fois la révolution, la contre-révolution, mais tous les peuples, c'est comme ça. Hein, mais le nôtre, encore plus peut-être.
Hein, oui,
on est un peuple divisé en deux hein, depuis 1789.
Sinusoïdal.
Ouais, c'est très bonifié, Bernard. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, voilà pourquoi je reviens aussi du Xinjiang parce qu'il y a eu cette polémique. Donc je voulais voir par moi-même, de visu. Alors il se trouve que j'y suis allé avec Maxime Vivas, qui fait partie de mes auteurs. Je ne l'ai pas publié précisément sur ce qu'il écrivait sur les Ouïghours, parce qu'il écrit un livre très important qui fait date dans un moment où c'était beaucoup plus polémique pour en finir avec les fake news aux éditions La Route de la Soie. Et moi, j'ai publié des livres avec lui, notamment la Chine sans œillères et les divulgations des anti-chinois en France, puisque nous étions attaqués en fait par un rapport écrit pour l'OTAN, par un institut de l'armée française. Enfin, voilà, on était vraiment dans le collimateur parce que. C'est assez drôle, de ce point de vue-là, ça me fait avoir un rire un peu amer, parce que c'est quand même un rapport de l'armée française qui dénonce des compatriotes à une armée étrangère, c'est-à-dire l'OTAN. Donc, enfin, en tout cas, l'armée américaine. Et donc, voilà, je voulais absolument me rendre compte avec Maxime Bivas, lui, c'est son troisième voyage, et moi, c'est mon premier, de ce qui se passe passe littéralement au Xinjiang. Alors, j'avais des préjugés, hein, je dois dire, quand même, d'une certaine manière. C'est-à-dire que déjà, quand Mike Pompeo, c'est Mike Pompeo qui a lancé l'histoire du génocide des Ouïghours, alors, il avait dit lui-même, tu t'en souviens, Bernard, hein, à la CIA, on m'a appris
à... à tuer, à mentir, à voler.
Il ne l'a pas dit, non, voilà.
On a menti, on a volé, on a trompé, enfin oui, tout. Oui,
voilà, mentir, tricher, voler, moi,
voilà, c'est ça. Toutes les saloperies, on sait les faire.
Exactement, c'est comme si on avait fait ça toute sa vie.
C'est le métier.
Oui, c'est le métier, oui.
C'est le métier de voyou.
Et donc c'est lui qui... Alors il est possible qu'une fois de plus, Mike Pompeo ait menti sur cette question du génocide ouïghour. Et le pire, c'est que Lawrence Wilkerson, qui travaille aussi pour lui, à la CIA, a dit aussi qu'ils avaient manipulé la question du Xinjiang. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il y a un décalage entre le fait que la CIA, elle opère de manière... sans pudeur, sans aucune, de manière presque totalement obscène, parce que ce qu'ils cherchent en fait, c'est pas à convaincre, ils cherchent l'obéissance.
Oui.
C'est vraiment, c'est un petit peu quand Emmanuel Macron vous dit par exemple antisémitisme égale antisionisme, tout le monde sait que c'est idiot, que oui, justement c'est pas synonyme. Mais ce qu'on vous demande, c'est de vous soumettre à cette idée-là, parce que ça veut dire jamais j'aiderai le peuple palestinien, je ferai en sorte que de pouvoir les...
C'est moi qui l'ai dit, donc c'est vrai, puisque je suis président de la République.
Ouais, voilà, ça a cette fonction-là. Il faut pas toujours croire que les... ça fait partie de l'idéologie, il faut pas toujours croire que les gens essaient de vous convaincre. Au bout d'un moment, ils essaient tout simplement de faire des...
D'autorité,
voilà, c'est ça. Donc on devait croire au génocide des Ouïghours. Alors, donc effectivement, je pense que si j'étais revenu un an plus tôt, j'aurais été littéralement crucifié, comme l'a été Maxime Vivas, hein, par rapport à... Et là, je me rends compte que c'est plutôt la stratégie de l'été noir, de l'étouffoir, quoi. Voilà. Parce que en fait, ils sont déjà en train de rétro-pédaler. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que le hasard a fait que j'étais invité par une conférence par des universitaires américains, mm-hmm, sur un livre sur Michel Kouskar, et c'était à l'EHESS.
D'accord.
Et c'était en juillet à Paris, et donc je voyais beaucoup de bon, c'est le milieu un peu de gauche des universités américaines. Alors c'est des gens, ils sont marxistes bontins, bon, des jeunes gens brillants, mais c'est pas des militants de choc anti-impérialistes, faut...
D'accord,
pas...
Oui.
Mais alors, par exemple, je leur disais, je vais en Chine, et puis je vais au Xinjiang, et puis ils me disent, ah, tu vas voir le génocide, en faisant une bonne blague. C'est-à-dire, et ils étaient absolument tous convaincus de ça, c'est que c'était vraiment le hoax, quoi, le canular absolu. Alors je me dis, tiens, ça veut dire qu'en fait, ils ont un ou deux ans d'avance. Et c'est vrai que, ou plutôt, c'est nous qui avions un ou deux ans de retard sur la propagande. Parce que quand même, ils ont été jusqu'à faire voter 6 ou 7 parlements européens. Alors tous, il n'y a pas un pays musulman, évidemment, parce que les pays musulmans soutiennent la Chine. Ça ressemble un petit peu aux condamnations de la Russie, hein, c'est à peu près la même carte.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment c'est l'Atlantique Nord, quoi. Et donc, je ne sais pas, ils vont vous faire voter la République tchèque sur le Xinjiang, sur quelques pays baltes. Et donc, évidemment, notre pauvre République bananière a voté comme un seul homme, enfin, ou à quelques exceptions près. L'exception d'un député communiste qui s'est abstenu. C'est le mieux qu'on ait eu, c'était l'abstention.
Ah oui.
Une abstention.
Lecoq.
Une, ouais, Lecoq, voilà, c'est ça.
C'est le plus anti-impérialiste des élus communistes.
D'accord. Et alors, il s'abstient.
Quand je regarde ses positions sur l'Afrique, c'est le seul qui a encore une analyse de la situation africaine. Les autres, non. Même dans le parti, ils s'en foutent, quoi. C'est le business de Lecoq.
Voilà. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. C'est que, non, il a quand même eu le droit de survivre. Non, il n'a pas été exclu, mais...
Il garde sa circonscription, c'est... non.
Et alors oui, et donc Clémentine Autain par contre a dû s'abstenir alors qu'elle n'en passait pas moins, et elle passe son temps depuis à s'excuser. Alors il faut savoir quand même que cette accusation de génocide a été lancée par Olivier Faure. Et Olivier Faure du PS, grand descendant de Jaurès. Donc en fait, bientôt il va falloir quand même vous poser la question à ce monsieur, si vous descendez de Jaurès. Enfin, les communistes aussi, à bon droit, à mon avis, peuvent se revendiquer de Jaurès. Hein, c'est ça le problème, c'est que cet héritage est indéfinissable. Mais effectivement, si vous tenez tant à la paix mondiale, pourquoi est-ce que vous, quand Mike Pompeo et la CIA lancent une baballe, pourquoi est-ce que vous courez après? Pourquoi? Ça sert quel intérêt? Je dirais que le troisième larron de toute cette noria là, ce anti-chinoise, ce serait Raphaël Glucksmann.
Ah oui, certainement.
Oui.
Ça, dans le profil de son papa.
De son papa, il a commencé Satchirien, puis s'est rendu compte que c'était pas tellement le rôle qu'il devait jouer. Il y a mieux, c'est le Satchirien de gauche. Là, c'est parfait. On peut candidater pour le PS aux élections européennes. Et puis, il va à Taïwan, comme s'il était... C'est pratique, parce que comme Taïwan n'est reconnu par personne, il peut y aller comme si c'était un ambassadeur, ou je sais pas ce qu'il... Mais il se plaît de... Et voilà le rôle de ce monsieur. Donc voilà, c'est ça, les descendants de Jaurès. c'est des gens qui marchent à n'importe quelle propagande. Bon, je fais la liste de mes préjugés, mais effectivement, comme j'ai vu que c'était à peu près la même campagne qu'il y avait eu sur le Tibet, je pense que tu t'en souviens beaucoup mieux, Bernard.
Oui, on connaît la musique.
Oui, tu te rappelles l'histoire de la... Il y avait une athlète chinoise avec la paraplégique, et les militants pro-indépendance tibétaine avaient essayé de lui arracher la flamme olympique. Quoi. C'était le même délire. Sauf qu'ils n'avaient pas été jusqu'à faire voter des parlements. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que, bon, de toute façon...
En fait, ce qu'on a à propos, c'est le crépuscule de la fonction parlementaire au niveau de l'Europe. Ils ne servent plus qu'à voter des motions stupides.
Oui, exactement, oui, c'est ça.
Bon.
Si, d'une certaine manière, je crois que c'est vraiment un sujet. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de... Bon, ce que j'ai vu, effectivement, très, très rapidement, j'ai vu ce qu'ont pu constater n'importe quel touriste de base. Parce que moi, de toute façon, je suis un sous-homme de communiste. Donc, tout ce que je peux dire, je suis ils vont dire que je suis un agent chinois. Ils vont dire que... Voilà, donc c'est ma parole n'a aucun intérêt. Mais néanmoins, il commence à y avoir plein de vidéos YouTube de touristes américains. Vous savez, le héros des films, le touriste américain, il est toujours apolitique, il est toujours naïf, mais c'est toujours un brave gars. C'est l'américain de base. Mais d'ailleurs, c'est plutôt sympathique parce que c'est vrai qu'ils ont un avantage sur les Français, c'est qu'ils voyagent beaucoup plus. Bon, ils arrivent à se faire comprendre plus facilement. Et avec le côté un peu on the road, quoi. Donc, leur bagnole, leur Ford Mustang et tout. Et ils parcourent tout le Xinjiang. Et puis ils se rendent compte, bon, ils sont pas très bons en langue, hein, mais ils se rendent compte quand même, il y a du mandarin, là, c'est vraiment très compliqué. Et puis après, il y a des caractères arabes. Donc oui, c'est du Ouïghour sur tous les panneaux officiels. Mais systématique. Hein, donc, parce que justement, on a peut-être une image, nous, qui est issue en fait, de la France républicaine du 18e et du 19e, où les gens ne concevaient pas la notion de bilinguisme.
Bien sûr.
Mais c'était pas du tout celle ni de l'URSS, ni de la Chine. Non. Au contraire, on a toujours favorisé... Parce qu'en fait, la conception linguistique est différente aussi. Et puis bon, parce que c'était vraiment prolétarien, donc on comprenait très bien le fait que les gens avaient le droit de parler leur langue maternelle, mais ça a toujours été défendu. Et la politique des nationalités ressemble énormément. En gros, ils ont toujours été très, très fiers de leur minorité ethnique.
Oui,
hein. 56 minorités en Chine.
C'est énorme.
Et là, par exemple, je suis allé à Urumqi.
Ils ont laissé faire des enfants, etc.
Ah oui, oui, beaucoup plus que... Oui, oui. Bah, alors, malheureusement, ils ont impliqué... Bah, c'est, je pense que c'est dur pour tout un chacun. Peut-être qu'il n'y avait pas le choix d'un pays collectif, mais les Han, donc l'ethnie majoritaire, se sont imposés pendant 30 ans à peu près. Ça s'est terminé en 2006. Se sont imposés la politique de l'enfant unique, mais ils ne l'ont pas imposé aux ethnies. Donc ça aussi, les Chinois, quand on leur parle de ça, enfin les Chinois, oui, la majorité des citoyens chinois, quand on leur parle de ça, effectivement, surtout s'ils sont Han, ils le prennent vraiment très mal. Parce que s'il y a vraiment des gens qui ont dû se limiter dans leur volonté de transmettre la vie, c'était bien eux. Mais je pense qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment changer de politique. Mais et voilà.
Mais ils ont eu raison de le faire au moment où ils l'ont fait. C'est-à-dire, autrement, il n'y aurait pas eu à manger pour tout le monde.
Bah, oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est ce choix-là qui avait. Oui, voilà. C'est tout à fait résumé. Mais voilà. C'est d'autant plus scandaleux de dire qu'il y a ou génocide culturel ou génocide. Enfin, de toute façon, ils cherchent toujours. Alors, justement, il y a du Ouïghour partout, et puis ces touristes sont en train de revenir avec les mêmes images que moi, ou alors, je sais pas, des Ouïghours avec des costumes absolument époustouflants. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à Kashgar, c'est on est vraiment tout à l'ouest, hein, où il y a le plus de Ouïghours, hein. C'est des jeux femmes sur des motocyclettes, chevaux au vent, allant partout où elles veulent.
Ah, oui.
Et quand on pense que vraiment, mais à quelques kilomètres, là, on est de l'autre côté, c'est l'Afghanistan.
Oui, tout à fait.
Mais c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Xinjiang est une région qui a 8 qui est limitrophe de 8 pays.
8 pays, c'est ça.
Donc c'est vraiment clé. C'est là, si vous voulez vraiment déstabiliser la Chine, à partir surtout comme les Américains ont toujours fait cette aide aux talibans, ça remonte aux années 80. Et d'ailleurs, ils l'ont fait, parce que c'est vrai que cette histoire, quand même, s'ils ont. Pourquoi Mike Pompeo a lancé cette histoire de génocide? Bon, ils sont appuyés sur tout un travail, entre le travail de désinformation d'anticommunistes patentés, hein, d'extrême droite comme Adrian Zenz, qui était un soi-disant expert du Xinjiang. En fait, on s'aperçoit qu'il est. Que c'est un illuminé. C'est vraiment l'extrême droite catholique la plus rancie, quoi, hein, enfin, d'une certaine manière, et qui pense qu'il faut que les juifs vont périr dans un brasier s'ils ne se convertissent pas, enfin voilà, un côté je sais pas, inquisition de la grande époque, quoi. Et donc c'est ce monsieur qui est censé, qui, ah oui, qui a déclaré lui-même qu'il avait une mission à remplir, qu'il avait été assigné par Dieu contre la Chine, contre la Chine communiste. Donc voilà à peu près leurs informations. Et donc c'est lui qui a lancé l'histoire du travail esclave, travail servile, donc dans les champs de coton. Alors pourquoi pas rajouter aussi qu'il chantait du blues, hein, dans les champs de coton du Xinjiang, parce que souvent c'est les représentations de l'Occident qu'on plaque en fait,
oui,
sur.
Voilà, c'est ça.
Regardez, moi je les ai vus ces champs de coton. Il faut comprendre la région, ça c'est intéressant parce que. En fait, l'eau est tellement rare dans cette région parce qu'à la fois il y a des montagnes énormes, mais en même temps c'est complètement désertique. Vous avez par exemple la dépression de Turfan, on est carrément en dessous du niveau de la mer. Et si vous n'acheminez pas l'eau de la manière la plus scientifique possible par des tuyaux et qui sont à même les plantes, mm-hmm. c'est vous perdez de l'énergie. Donc si vous le faites faire par quelqu'un d'autre, c'est une déperdition d'énergie folle. Et puis en plus, quand on pense que la Chine déclare 40% des brevets actuellement dans le monde. Alors, des ingénieurs m'ont dit qu'ils ont une tendance un peu au Japon, en Chine, à déclarer un peu plus de brevets que nous, on le ferait. Bon, on pourrait un peu minorer ce chiffre, peut-être à 30%, 25%, mais peu importe, c'est énorme. La Chine a un taux d'ingénieurs absolument fou. Pour avoir un taux d'ingénieurs comme ça, il faut tester toute la population, il faut la mettre, en classe. Il faut, la notion de travail esclave est absurde, parce que non seulement vous devez avoir des esclaves, mais vous devez avoir aussi des gens pour les contrôler. Exactement. Donc tout ça n'a aucun sens vu ce que produit actuellement la Chine, indépendamment du fait que c'est honteux de les accuser de ça, mais de toute façon c'est tout simplement absurde. Donc rien que répondre par l'absurde, ça suffit. Bon, et effectivement, bon, tous ces touristes apolitiques, et qu'est-ce qu'ils montrent en fait? Ils montrent des Ouïghours en train de danser, chanter. Alors même les femmes dansent, même les femmes font de la musique. C'est une musique très haute qualité qui est protégée par l'UNESCO, mm-hmm. avec les 12 mukams qui sont sur 12 échelles modales. C'est vraiment une musique savante, hein. Et avec une chorégraphie, ça fait pas véritablement, c'est un joyau de la région, et ça a toujours été mis en valeur. Et on voit à quel point justement le parti communiste de Mao avait envoyé les meilleurs musicologues pour sauvegarder justement ce patrimoine musical, enfin toujours dans cette optique de voilà, ça fait partie de la richesse du pays, quoi. Et même j'ai vu par exemple une ville nouvelle créé par des soldats paysans de Mao, parce que justement ils ont dit on n'a plus besoin, la guerre est finie contre les Japonais et mm-hmm. contre les nationalistes soutenus par les Américains, donc on met bas les épées et puis on prend les charrues et puis on crée une ville nouvelle parce qu'on ne va pas concurrencer l'eau avec les paysans, l'eau est rare dans ces régions, oui. Donc il fallait créer vraiment les infrastructures, et il y a beaucoup de villes comme ça qui ont été faites par le Bing Tuan. D'ailleurs, Maxime Vivas avait pu y aller aussi, sur le deuxième voyage, était un peu dans ce cadre aussi, avec ces villes nouvelles. La première, c'était dans un cadre journalistique, et puis là, c'était donc le troisième avec moi. Donc, on a confirmation, c'est vrai que du fait qu'il y a eu un immense mensonge. Et puis, alors, dès qu'on est arrivé, moi je m'en suis rendu compte, dès qu'on est arrivé dans le bazar de Kashgar, on avait 11 heures de retard, on arrivait en pleine nuit. Le bazar était complètement accessible à tout le monde. Et effectivement, on peut se balader dans n'importe quelle ville, pendant des kilomètres, ce qu'on voit, c'est quand même une relative prospérité. Hein. C'est une région qui me semble même plus peuplée, enfin plus riche, plus développée que même certaines parties de la Chine. Voilà. On a tous appris qu'effectivement, ce sont plutôt les régions côtières qui étaient développées. Mais là, c'est déjà plus le cas, parce que vous avez justement ce début de route de la soie. Et là, on voit bien que le Xinjiang a été particulièrement développé. Alors, c'est vrai que dans les années 90, il y avait d'énormes problèmes. Il y avait notamment un problème de djihadisme. Mmh. Et depuis décembre 2016, les Chinois ont complètement éradiqué ça. Il n'y a plus un seul attentat au Xinjiang. Alors, justement, contrairement à d'autres pays occidentaux, ils ne sont pas contentés de déplacer le problème ou de le mettre ailleurs, un peu comme on a vu d'ailleurs de la Libye jusqu'aux autres pays eux ils ont vraiment éradiqué ce problème là d'autant plus qu'ils pouvaient s'appuyer aussi sur le fait d'un sentiment régional fort, parce que ces gens ont toujours été marqués par un islam de tradition juridique hanafite, mm-hmm. qui n'a rien à voir avec le hanbalisme, qui a donné notamment le wahhabisme. Ça c'est côté c'est l'Arabie Saoudite, c'est la version la plus féodale sur laquelle les Américains se sont appuyés, et pour l'imposer aux autres, et il n'y a aucune raison de le faire. Enfin, même le Tadjikistan est beaucoup plus rude. Alors c'est un pays à 95% musulman, mais beaucoup plus rude dans sa politique anti-djihadiste que les Chinois finalement. Parce que par exemple, au Tadjikistan, ils vont jusqu'à carrément couper les barbes en fait, ce qui n'est pas le cas en Chine. Moi,
ils ont été plus menacés, je pense.
Ouais. Mais si, en Chine, ça a été très fort. Hein. Enfin, la menace était vigoureuse. C'est allé jusqu'à des attentats à la place Tiananmen. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, par contre, c'est complètement terminé. Et justement, ce que me disait Maxime Vivas par rapport à ce voyage, c'est qu'il ne voyait plus du tout les mêmes mesures de sécurité qu'auparavant.
D'accord. Donc, c'est révélateur.
Voilà, ça veut dire que vraiment, je suis arrivé en pleine nuit. Il n'y avait vraiment aucun problème. Non, c'était. Alors que Maxime Vivas me disait, le premier voyage, il y avait carrément un char qui était posé devant le bazar.
Voilà,
bazar.
Oui, c'est ça. Donc,
voilà. Ça, c'est sûr qu'il craignait quelque chose.
Ouais. Oui,
mais là, on voit. Et même maintenant, ils en ont fait un musée hein, de radicalisation pour montrer. Ils ont gagné. Hein, ouais. Et tant mieux. Voilà, c'est quelque part, j'allais dire, la République a triomphé. J'ai dit un peu parce que moi j'y retrouve un peu cet esprit républicain français contre le fanatisme, contre ces tendances à imposer une religion sur une autre, une communauté sur une autre. Non, c'est vraiment, c'est bien la République populaire de Chine.
Populaire, hein. Oui.
Voilà, c'est. Alors ils disent qu'on recou, qui a une notion d'harmonie. Hein. Ça veut dire la paix, l'harmonie. Mais nous, on a plus, c'est plus la notion de choses publiques, mais ça revient à peu près au même. Hein. De toute façon, et constitutionnellement, ce respect des peuples est garanti. Ils ne peuvent pas évidemment faire n'importe quoi, commencer, c'est pas du tout dans l'esprit. Donc alors, évidemment, je n'ai pas fait les 90% du Xinjiang qui sont inhabitables, je ne suis pas allé dans le désert du Taklamakan.
Vous êtes resté combien de temps?
Oui, à peu près 10 jours, hein, donc vraiment c'était très court. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas le seul, en fait. Moi, tout simplement, je tire les conclusions politiques, ça ne ferait peut-être pas le touriste américain de base, mais je ne suis pas le seul à revenir du Xinjiang enchanté par une espèce de symphonie de couleurs, de sons.
C'est-à-dire dans certains milieux qui ne veulent pas le savoir.
Voilà, exactement. Puisque bon, moi, j'ai pas vocation à vouloir être un négationniste du génocide ouïghour. Je me réveille pas le matin en disant comment est-ce que je pourrais nier la souffrance de tout un peuple. Je sais pas. J'ai pas voulu faire ça après 40 ans. Non, c'est pas mon but. Mais simplement, au bout d'un moment, bon, je pense que là il faut arrêter ce genre de blague. Il ne faut que. C'est une mauvaise blague au sens où au bout d'un moment ça joue sur les relations internationales, ça crée des menaces de guerre, c'est la propagande de guerre tout simplement, il faut arrêter ça. Et puis, je conçois qu'il y a des mouvements pro-indépendantistes qui se sont fait totalement acheter par l'Occident, et qui ont des postes mirifiques pour raconter n'importe quoi. D'ailleurs, des Américains m'en ont parlé justement de ces universités. Et une jeune femme qui vit dans une chambre pour étudiants qu'elle partageait à deux, puis d'un seul coup ça devient la passionnariat de la cause ouïghour, et elle revient en disant est-ce que mon brushing était correct. C'est payé grassement. Mais d'ailleurs, bon, ce que je comprends aussi, c'est que on est en retard, nous, sous cette propagande là parce que même pour un parlement aux ordres, ça met un peu plus de temps. Donc ça date de janvier 2022, mais déjà plus personne n'en parle. Et bon, ce qui est quand même intéressant, c'est que là vraiment on va. Les États-Unis ont déjà changé. Maintenant, c'est la Chine est un immense concentration à ciel ouvert, mais partout. Hein. Et puis, ici, on a trouvé. Ils mangent des cœurs. On a trouvé des bouts de corps d'êtres humains près de la base de Djibouti, parce que les Chinois ont une base à l'étranger. Les Américains en ont 700.
Oui, on n'en parle que d'elle, effectivement.
Voilà, ça, c'est le principe du président Schreiber, bien décrit par Freud. C'est la parano. Vous encerclez un pays, mais c'est l'autre qui est agressif, quoi, en fait. Et vous ne faites que vous défendre, quoi. Donc ils imaginent qu'on ne sait pas quels ennemis ils ont à Djibouti, peut-être des Ouïghours parce qu'ils ne sont pas très bons en géographie, alors peut-être qu'il y a des Ouïghours à Djibouti, je ne sais pas. Et alors, je connais même, j'ai un ami psy à San Francisco, il se reconnaîtra s'il m'écoute, donc qui est d'origine française, mais il écoute en fait les rêves des citoyens américains. Ah, il me dit maintenant, la propagande est telle que leurs rêves sont peuplés de méchants chinois. C'est comme au temps de la guerre froide avec les Russes. Oui. Donc on en est là, et je crois qu'il faudrait un petit peu commencer à raison garder. Et puis surtout, moi j'aimerais bien qu'on analyse un peu ces réseaux de relais de la propagande américaine. Bon, on avait Reporters sans frontières, évidemment, depuis 30 ans.
Oui, mais il y a plus perfide, il y a plus profond, oui, je pense.
Oui.
Y compris dans les universités, je pense. Inalco, des coins comme ça. Hein.
Oui, et exactement. Et cette systématicité, je crois qu'il faudrait vraiment l'analyser.
Ouais.
Et y compris aussi cette gauche atlantiste, parce que les pires sont finalement à gauche, en fait. Donc,
moi, j'ai l'impression que c'est une stratégie maintenant. Mmh. Peu importe, la droite, elle est avec nous, donc c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est que la gauche tombe du mauvais côté.
Du mauvais côté, oui, c'est ça. C'est pour ça que même...
Comme ça, elle est inopérante.
Oui, c'est un peu ça. C'est comme on voyait Sarkozy était moins russophobe que Jospin, par exemple. Ouais. Mais parce que peut-être qu'on a besoin de Sarkozy pour négocier. Parce qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'il va falloir... Au bout d'un moment, le sacrifier de la chair à canon ukrainienne, c'est pour ça qu'ils ne disent pas qu'ils sont pro-ukrainiens, parce qu'ils sont en train de faire se faire tuer des en plus des Russes, mais en plus des Ukrainiens, quoi. Donc faut arrêter ça le plus tôt possible. Mais peut-être qu'à bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'ils sont obligés de négocier, parce que là, sinon, après, les Russes sont à Kiev. Donc c'est pour ça qu'ils mettent la droite. Mais vous avez toujours, évidemment, la sentinelle, la vigie démocratique, Jospin, et toute cette bande-là, qui sont les plus atlantistes. Mais depuis Mitterrand, c'était déjà le cas.
Hein. Oui, même depuis... Annie en parlera, depuis 47. Hein,
oui. Depuis 47. Ah bah oui, alors, Annie, elle était intéressable sur le sujet, et c'est normal, oui, c'est sûr. Oui.
Alors, les suites de ce voyage, vous avez prévu de publier...
Alors oui, Maxime Vivas, lui, a des comptes à régler, y compris avec les médias comme Blast, le Média, effectivement, j'imagine, proche de la France Smith, dont il était membre, hein, d'après ce que je comprends, je crois qu'il est toujours membre, effectivement, qui l'ont traité de dingo, de zozo, enfin... Ah oui, non, vraiment, c'était un mépris tel que... Là, il va publier une suite, et ça va être... À mon avis, il y en a qui vont un peu devoir faire un examen de... Enfin, amener récipicence, ils le feront jamais, mais ils n'en parleront pas.
C'est ça, un retournement de veste maîtrisé.
Maîtrisé, voilà, c'est ça. Voilà, Maxime prépare un livre sur le sujet, il va y avoir des documentaires, aussi pour la télé chinoise, il va y avoir... moi j'ai écrit plusieurs articles aussi déjà dans Le Grand Soir, peut-être que je vais peut-être aussi donner une suite, enfin on va voir ce que ça donne, mais à mon avis il faut pas lâcher cette gauche là il faut tirer les conclusions. J'aimerais bien vraiment qu'on y compris pour la paix mondiale, parce que c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est pas un mince sujet, quoi, je crois. Et quand même la guerre qui vient entre les États, on a publié un livre justement avec Maxime Vivas là-dessus, Chine USA, la guerre imminente, point d'interrogation. On aimerait justement garder ce point d'interrogation.
Tout à fait.
Et arrêter avec ce propagande.
C'est clair que les Chinois ne veulent pas. Ils sont préparés de mieux en mieux, c'est clair. Enfin, c'est clair qu'ils veulent l'éviter. En fait, ils sont quand même en train de marquer des points, ça on en reparlera. Mmh. En calmant la tension dans la zone du Moyen-Orient, etc. Donc ça, c'est...
Ouais, j'ai pas sûrement dit que les Chinois étaient meilleurs que tout le monde, mais ça pense, comme je suis marxiste, je sais bien que une économie qui a 80% donc 80% des secteurs clés est dirigée par un parti communiste n'est pas soumise à la baisse tendancielle du taux de profit qui est la cause fondamentale des guerres. Si on étudie Marx, c'est ça. Et malheureusement, c'est une cause qui est indépendante des volontés des individus. C'est quelque chose qui s'impose aux masses sans même qu'elles le décident. Donc c'est pour ça que je parie toujours sur les partis socialistes sur les pays socialistes pour dirigés par des partis communistes pour éviter ces causes des guerres, en fait, pour éviter les guerres. Voilà.
Très belle conclusion.
Merci Bernard.
Merci Émeric. À bientôt.
À bientôt.
Bonjour, vous savez qu'une nouvelle radio fait sa révolution chez Radio Galère ?
Ah oui.
Oui, c'est numérique, gratuit et anonyme, et ça s'appelle le DAB+. Son et réception de meilleure qualité, et prochainement, une nouvelle couverture de diffusion sur Aubagne sera déployée.
Et comment on pourra s'équiper ?
Oh, c'est simple ! Un poste compatible DAB+, ou un adaptateur, et ça fera l'affaire.
Bonjour ! Heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour une émission un petit peu particulière qui va être différente de nos émissions hebdomadaires classiques, donc le mardi de 14h à 15h, puisque ce ne sera pas une émission consacrée à l'actualité de ces derniers jours, mais une émission qui sera consacrée à un sujet particulier, une sorte de dossier sur une province de la République populaire chinoise dont vous avez probablement entendu le nom, qui s'appelle le Xinjiang, et qui a défrayé la chronique à certains moments, qui la défraie un peu moins maintenant, mais j'ai voulu vous en parler parce que j'ai réalisé, donc c'était au mois de septembre, dans un jardin public, une interview d'un personnage que je vais vous présenter un peu plus avant, qui a réalisé un voyage d'études ou un voyage d'enquête, disons, au Xinjiang pendant 15 jours pendant le mois d'août 2023, en compagnie d'un autre personnage qui est aussi un journaliste lui-même. qui s'appelle lui Maxime Vivas, et donc ils sont allés voir où en était la situation dans cette république autonome de la République populaire de Chine. Alors soyons précis, de quoi s'agit-il ? La République autonome du Xinjiang est donc la république la plus occidentale de la République populaire de Chine. C'est un pays qui est grand à peu près, c'est une république plutôt qui est grande à peu près trois fois comme la France, qui est très peu peuplée par rapport à sa superficie, puisqu'elle est très largement désertique. Alors, pour vous donner un chiffre, il y a environ 25 millions d'habitants sur tout le territoire de la République du Xinjiang, donc sur trois fois la surface de la France. Bon, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas très hospitaliers, ceci expliquant cela. Le Xinjiang donc, a été intégré à la République populaire de Chine en 1955, et donc sous ce statut de République populaire autonome, qui lui donne des particularités, c'est-à-dire le respect de la langue locale, puisqu'on a affaire à des gens qui parlent une langue particulière, qui est apparentée au rameau turc, je fais simple dans les classifications linguistiques, à cette population qui est pour une bonne partie très majoritaire musulmane, ce qui n'est pas le cas de la majorité des habitants de la République populaire. Donc elle a de vraies particularités. Et puis elle a des particularités économiques, en ce sens qu'elle est riche, un sol riche, c'est-à-dire qu'il y a du charbon, qu'il y a du pétrole, qu'il y a du gaz, qu'on peut aussi, vu le climat, qui est un climat continental chaud, y cultiver le coton, dont la République est un gros producteur. Donc on a une partie du territoire de la République populaire chinoise qui a du poids économique. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle Pékin s'y intéresse. Bon, mais en fait, l'autre aspect, c'est sa position géographique. Donc je vous ai dit, extrême ouest de la République populaire de Chine, en contact avec toute une série de pays qui sont autant d'anciennes républiques socialistes soviétiques. Je parlais du Tadjikistan, du Kyrgyzstan, de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan et de l'Afghanistan, alors qu'il n'est pas une ancienne république socialiste soviétique, où elle l'a été très très peu, et encore sous une forme très particulière. Donc, très ouvert sur ce qu'on appelle l'Asie, le cœur de l'Asie centrale, le cœur de l'Eurasie même. C'est ce qui en fait aussi l'intérêt, c'est-à-dire c'est pas simplement une périphérie de la Chine, c'est un morceau de la Chine qui est profondément intégré au reste du continent eurasiatique, et qui est profondément lié à ce qui a été l'espace soviétique jusqu'à 1991. Ce qui explique aussi des relations particulières avec la Russie au-delà de cet espace d'Asie centrale. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans ce cycle ? Alors vous imaginez, donc, position géopolitique très très importante, et je n'ai pas dit, mais il faut quand même le dire, que ces républiques ex-soviétiques, que ce soit l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, le Kazakhstan, ont fait l'objet de convoitises états-uniennes extrêmement fortes dès la disparition de l'URSS. Et ils ont essayé ici d'installer une base militaire, ici d'avoir des intérêts économiques, etc. Enfin, donc il y avait un véritable enjeu de prendre le contrôle de cet espace-là, post-soviétique, au nez et à la barbe de la Chine populaire. Bon. Et la Chine populaire, effectivement, elle a bien vu venir la chose, puisqu'elle savait qu'elle était là au milieu de ce dispositif. Elle savait l'état d'affaiblissement de l'espace soviétique qui était démantelé en petits morceaux, qui fonctionnait tant bien que mal et plutôt mal que bien. Et donc, elle était très soucieuse d'assurer un développement exemplaire à cette province du Xinjiang. Le calcul des États-Unis était exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'organiser le désordre dans cette zone-là qui était stratégique, puisque organiser le désordre, c'était d'une part affaiblir la Chine et puis profiter de l'encercler par des républiques ex-soviétiques qui seraient devenues des républiques pro-américaines et pro-occidentales. Alors ça n'a pas marché non plus, mais il s'est passé donc dans cet espace du Xinjiang une tentative de révolution, alors révolution islamiste disons pour faire simple, puisque les États-Unis ont dit bon là on a une minorité nombre 25 millions, je vous le dis, musulmanes. Si on arrive à fabriquer avec les moyens qu'on connaît et qui sont connus et qui ont été utilisés ailleurs, une sorte de révolte et d'insurrection islamiste, on peut affaiblir durablement le pouvoir chinois et on peut surtout lui empêcher d'avoir une influence positive sur toutes les républiques qu'on voudrait nous-mêmes mettre dans notre escarcelle. C'est-à-dire, je l'ai redit, donc Tadjikistan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Kazakhstan, etc. Ça, c'est très très important à comprendre. Et donc, l'idée de dire dans les stratèges de la domination états-unienne, c'est là qu'il faut porter notre effort, c'est là qu'on doit mettre le désordre dans la République populaire de Chine, elle s'imposait évidemment. Et elle s'est imposée à une période tout à fait claire, ça a démarré en 2009, et ça devait durer jusqu'à une crise politique et voire un renversement du pouvoir communiste chinois à Pékin. Alors ça n'a pas vraiment marché, puisque très très vite la République populaire de Chine s'est rendue compte de l'enjeu, hein, je vous ai expliqué, l'endroit géographique, les ressources de cette région-là, les dangers d'encerclement par des républiques qui seraient devenues des républiques occidentales pro-américaines et manipulées par les États-Unis. Et donc très très vite la Chine a réagi. Elle a réagi d'une façon très très sévère, c'est-à-dire elle a éliminé les éléments qui s'étaient radicalisés comme dans tous les djihadismes musulmans, et elle les a éliminés, donc elle les a chassés, elle les a réduits, et elle a fait en sorte que pratiquement on peut considérer, c'est admis par les observateurs neutres, que dès 2014, la tentative donc d'une rébellion islamiste au Xinjiang était éradiquée, etc. Alors, évidemment, cette tentative donc, a été un échec flagrant de l'Occident, a suscité des réactions en Occident. C'est-à-dire qu'ils ont bien vu que la Chine allait se sortir de la difficulté qu'on était en train de lui créer, et ils ont essayé de faire leur travail de propagande pour qu'ils puissent continuer dans ce sens-là, avoir des appuis, et au moins que les opinions publiques occidentales applaudissent la tentative qui était en cours dans ce territoire-là de la République populaire de Chine. Ça ressemblait un peu à ce qui s'était passé avec le Dalai Lama et le Tibet, mais là, les enjeux étaient encore plus géopolitiquement et géoéconomiquement plus importants. C'est pas allé bien loin, et depuis, en gros, vous entendrez donc une interview là-dessus, on peut considérer que la révolte islamiste au Xinjiang a échoué, n'a pas marché. Alors ça a été présenté comme, quand les Occidentaux ont vu que le régime chinois ne se laissait pas faire et prenait des mesures très très sévères pour éviter que cet abcès s'envenime, les Occidentaux ont mené une campagne extrêmement forte d'opinion pour carrément caricaturer les opérations qui étaient en cours sur le territoire chinois, c'est-à-dire on a parlé de camps de concentration, on a même parlé de génocide. Alors, je m'arrête sur le mot génocide, parce que si je vous dis qu'aujourd'hui, au Xinjiang, il y a 25 millions d'habitants, qu'il y a en gros la moitié de ces habitants, un petit peu moins, qui sont des Ouïghours, donc des gens du cru, qui ne sont pas des Chinois au sens ethnique, qui sont des Turkmènes, on va dire, pour faire simple. Et si je vous dis que l'autre moitié, là aussi à peu près à égalité, ce sont des Han, donc de l'ethnie chinoise, mais qui sont eux musulmans parce qu'ils se sont convertis à l'islam, c'est difficile de parler d'un génocide quand on voit qu'il y a donc 2 fois 12 millions de chaque côté, que pas beaucoup de gens sont morts, et qu'en plus les Ouïghours ont bénéficié, comme toutes les autres minorités ethniques de la République populaire, du bénéfice de la non-application de la politique de l'enfant unique. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'a été interdit aux Ouïghours d'avoir des enfants, d'en avoir 2, d'en avoir 3, d'en avoir 4. Ce qu'ils ont fait. Donc, parler de génocide alors que les faits, les chiffres démontrent exactement le contraire, et parler de génocide alors qu'effectivement la population a cru, que le niveau de vie s'est beaucoup amélioré, que l'activité économique est est une belle école, un beau développement économique par rapport à même d'autres régions chinoises de l'intérieur, c'était difficile. Alors, il fallait avoir de très très gros sabots et pousser des hurlements, génocide, camps de concentration, enfin, un catalogue d'horreurs qui était, comme on sait, hélas, que les appareils de propagande occidentaux savent le faire, un catalogue d'horreurs le plus large possible. Par rapport à ça, il n'y a pas eu beaucoup de réactions, mais il y a quand même eu une réaction dont mon interviewé Éric Monville parle, qui est la réaction d'un autre journaliste, Maxime Vivas, avec laquelle il a refait ce deuxième voyage pendant le mois d'août 2023. Ce monsieur s'appelle Maxime Vivas. Alors, peut-être certains d'entre vous le situent, mais pour être plus précis sur le personnage, il s'agit de l'animateur d'un site d'information politique internet qui s'appelle Le Grand Soir, Maxime Vivas. Et Maxime Vivas donc fait un premier voyage, il en a même fait deux avant, au Xinjiang, où il va voir par lui-même, et il publie au retour de ses voyages un livre qui fit beaucoup de bruit à l'époque, et qui s'appelait, écoutez bien, « Pour en finir avec les fake news », qui paraît en 2020. Alors là, son objectif était très clair, c'était un objectif de journaliste, c'est-à-dire dit, moi, ça fait des années que je lis à longueur de colonnes dans les grands médias officiels et dans les chaînes publiques, etc. Je lis des tas d'horreurs sur ce que fait la République populaire chinoise sur le territoire de la République du Xinjiang. Bon, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas debout. Je suis allé voir, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors vous imaginez, quand un journaliste, même sur un petit média alternatif, se met à dire la majorité des grands médias ont raconté des histoires, ont menti sur la situation au Xinjiang, il a évidemment droit à un tir de barrage considérable. Alors on l'a traité de tous les noms, de vendus, de agents de la République populaire, etc. Bon, vous imaginez, je ne vous fais pas de dessin, et vous pouvez chercher sur Internet, vous retrouverez la façon dont Maxime Vivas a été traité. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que là, on est monté d'un cran, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une opération, l'opération donc de propagande occidentale anti-chinoise était dictée au plus haut niveau par Washington et était suivie par l'OTAN et toutes les puissances occidentales. Et donc, il s'agissait de dire du mal de la Chine, d'affaiblir la Chine, dont chacun en Occident voyait la croissance et voyait où elle allait, où cette croissance allait la conduire là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire probablement première puissance du monde, au moins en parité de pouvoir d'achat, et surtout, première peut-être puissance technologique du monde et scientifique du monde, ce qui dérange beaucoup le cadre de réflexion de l'Occident dominant. Et donc, comme les réactions de journalistes classiques, officiels, ne suffisaient pas, il a été décidé de frapper plus haut et plus fort. Et ça, je vais vous citer de quoi il s'agit, parce qu'il s'agit de quelque chose, d'une réaction qui est extrêmement rare et qui, je veux dire, honore Maxime Vivas plus qu'elle ne le déshonore. Je m'explique. Il existe donc à l'école militaire, donc là où on forme les meilleurs stratèges de l'armée française, un institut de recherche stratégique qui publie à l'occasion des documents de doctrine, donc élaboration de la stratégie de l'État. Et cet institut de la recherche stratégique a publié donc un rapport dans lequel il expliquait que la Chine avait de grosses difficultés avec le Xinjiang, avec les Ouïghours, etc., que ça allait très très mal se passer, que c'était un état de crise profond et qui risquait de mettre en cause même le régime communiste chinois. Et dans ce rapport, alors tenez-vous, de 600 pages, il ne s'agit pas d'un pamphlet dans un journal ou d'un article d'humeur sur je ne sais quelle gazette, il s'agit d'un gros rapport, et dans ce rapport, écoutez bien, parce que c'est très très rare d'en arriver à ce niveau-là de déchaînement contre une personne, M. Maxime Vivas est cité 54 fois. Tous les chapitres, on a droit du Maxime Vivas, il a dit ci, c'est pas vrai, il a dit ça, c'est pas vrai. Il s'agissait de démolir page après page tout ce qu'il avait pu écrire dans son livre. C'est-à-dire qu'il avait effectivement beaucoup troublé le jeu propagandiste qui avait été considéré comme lancé. On pouvait dire, qui savait ce qui se passait au Xinjiang? Qui savait ce qu'étaient les Ouïghours? Personne, à part peut-être quelques obscurs étudiants à l'Institut National des Langues Orientales, mais pas plus que ça. Donc, on pouvait vendre, j'allais dire, on pouvait mettre en circulation dans l'opinion publique n'importe quoi sur le Xinjiang, tout passait puisqu'il n'y avait personne en face. Et tout d'un coup, il surgissait en face Maxime Vivas. D'où 54 citations pour éreinter Maxime Vivas, pour dire tout ce qu'il a dit, les fake news, c'est lui. Alors que lui disait, les fake news, c'est vous. Voyez où on en est. Et il se trouve que donc Maxime Vivas est retourné cet été avec Aymeric Monville faire une nouvelle visite au Xinjiang pour faire le point de la situation. Alors ils en sont revenus, vous allez écouter ce qu'en dit Aymeric Monville dans l'autre partie de cette émission, mais ils en sont revenus avec une impression d'une grande tranquillité, d'un développement économique qui se constitue, d'une vie facile, de l'absence de contrôle, il n'y a pas de char dans les rues, il n'y a pas de contrôle d'identité tout le temps, on va et on vient librement dans les villes du Xinjiang. Ils en sont revenus avec des impressions très positives, enfin très tranquilles finalement, qui vont ressortir de ce que vous allez entendre, de ce que j'ai trouvé dans la bouche d'Aymeric Monville. Alors Aymeric Monville, je le situe quand même, il mérite de l'être, puisqu'il est lui-même éditeur. Pas journaliste, mais il est éditeur. Il est en même temps, c'est un intellectuel avec un très haut niveau de formation politique, et sa maison d'édition qui s'appelle Delga, qu'il a créée, peut être considérée, et je le dis, comme la meilleure édition progressiste ou à tendance socialiste existant aujourd'hui en France, qui publie énormément, que ce soit des ouvrages sur l'histoire, que ce soit des ouvrages sur la philosophie, que ce soit des ouvrages sur l'esthétique, que ce soit des témoignages. C'est le catalogue de Delga que je vous invite à parcourir et d'une extrême richesse, grâce particulièrement à l'engagement très actif et militant de Aymeric Monville. Et c'est tellement vrai qu'il s'intéresse à tout, et en particulier à la Chine et à l'évolution générale du monde, qu'il vient de publier, c'est sorti donc le mois dernier, les éditions Delga viennent de publier un livre qui s'appelle « Chine-USA, la guerre imminente », est préfacé par un journaliste britannique qui est très connu, qui s'appelle John Pilger. Alors ce livre est écrit par trois personnes, Jean-Pierre Page, je le situe, donc c'est un ancien dirigeant du secteur international de la CGT, Maxime Vivas, j'en ai parlé, je l'ai cité, donc comme le monsieur qui a déchaîné les foudres des stratèges de l'école militaire française, et Aymeric Monville lui-même. Alors, cet ouvrage, je ne l'ai pas lu, mais je vous engage à le lire. Et de toute façon, la façon dont Aymeric Monville va vous parler de sa visite au Xinjiang et son analyse des choses vont vous donner envie de le lire. Je m'arrête encore sur un dernier aspect qu'il souligne, c'est-à-dire sur l'aspect musulman. Puisque ça a été, pour la stratégie occidentale d'attaque de la Chine, il s'agissait de susciter donc une révolte de type musulmane, un djihadisme d'un type un peu particulier, mais il se trouve que ça prenait pas tellement bien parce qu'on a affaire à un islam, il y a plusieurs courants doctrinaux dans l'islam, alors on connaît classiquement maintenant les chiites, les sunnites, etc., mais c'est un peu plus compliqué que ça, et il y a un courant de l'islam, un courant un théorique, théologique j'allais dire, l'islam, qui s'appelle l'anafisme, qui est le courant qui est le plus répandu, disons, depuis la Turquie jusqu'au Xinjiang, en passant par toutes les républiques d'Asie centrale, donc Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, etc. Et ce courant-là est un courant sur lequel les autres courants islamistes, ceux qui ont mis le désordre et qui ont fait couler énormément de sang dans le reste de la planète, les courants donc wahhabisme, inspirés donc du courant plutôt saoudien de l'islam, ce courant-là est un courant moins violent, qui est moins facile, qui est moins porté à ce type d'action de conquête par le sang, par la violence des cœurs et des convictions. Et donc, c'est un courant qui n'a pas beaucoup donné de succès. Alors, les Ouïghours, enfin, on a recruté, les spécialistes de la guerre religieuse et des djihad islamistes ont recruté quelques Ouïghours ici et là, mais ils n'ont pas constitué des gros bataillons qu'on pouvait attendre, ni en Syrie, ni ailleurs. Donc on a aussi une autre caractéristique qui avait probablement échappé à ces stratèges en chambre de la CIA et du Pentagone, c'est-à-dire qu'on avait un islam qui n'était pas tout à fait facile à prendre en main, et puis on avait en plus un deuxième islam, et j'insiste là-dessus, ben c'est très important pour comprendre la situation au Xinjiang. Dans les 25 millions d'habitants du Xinjiang, je l'ai dit, il y a en gros 12-13 millions de Ouïghours et 12 ou 13 millions de Hui. Alors qui sont les Hui? Eh bien les Hui, ce sont des Chinois ethniquement chinois, donc de l'ethnie des Han, l'ethnie très dominante, c'est plus de 90% de la population de la République populaire, qui se sont convertis à l'islam. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup historiquement, ben, le long de la route de la soie, puisque précisément la route de la soie, c'était par là où arrivaient les caravanes, souvent menées par des commerçants musulmans, et c'est par là que l'islam a pénétré en Chine très tôt, puisque dès le début des années 700, l'islam arrive en Chine, et donc il passe par le Xinjiang, et puis il arrive dans le point d'aboutissement le plus connu de la route de la soie, qui est la grande ville de Xi'an, et de là il essaie, mais pas plus que ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas omettre, quand on parle de religiosité en Chine, de considérer que la très grande majorité des Chinois ne sont pas religieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni chrétiens, sous quelque forme que ce soit, ni musulmans, ni juifs, ni bouddhistes. Alors toutes ces religions existent, ont des pratiquants qui sont tolérés, on les laisse vivre, ils ont leur temple et leur... etc. Mais il n'y a pas une emprise religieuse, il n'y a pas dans la philosophie chinoise ou dans la spiritualité chinoise telle qu'elle existe depuis très longtemps, depuis bien avant le début de l'ère chrétienne, depuis en gros Confucius, depuis 400-500 avant Jésus-Christ, une relation de l'homme chinois à la planète qui n'est pas une relation qui passe par l'entremise d'un dieu. C'est une relation concrète en disant on est là, il faut qu'on essaye de se nourrir, qu'on essaye de faire pousser le riz et le blé, qu'on essaye d'avoir de quoi faire avancer nos affaires, mais il n'y a pas de rapport avec une espèce de réalité supérieure dans laquelle on trouverait des commandements. Et ça reste chinois, et ça reste vrai, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que les musulmans chinois, il y en a près de 30 ou 40 millions, ce qui n'est pas grand-chose par rapport à 1,4 milliard, des chrétiens il y en a aussi, des bouddhistes aussi, il y a même eu des cas où l'empereur de Chine était bouddhiste lui-même, mais la population ne l'était pas. C'est pas un problème, et donc je veux dire, les petits malins de la CIA qui ont dit ah ben on va leur compliquer la vie, on va leur mettre un problème avec l'islam au milieu, ils ont probablement perdu leur temps, fait une mauvaise analyse. Ils ont tellement fait une mauvaise analyse qu'il reste aujourd'hui que le Xinjiang est un point de passage de la nouvelle route de la soie telle qu'elle a été lancée par le président chinois à partir de 2013. Donc vous voyez, il y a une coordination. C'est-à-dire, l'Occident essaye de mettre le désordre au Xinjiang de 2009 à 2014, et à partir de 2013, la contre-attaque est extrêmement claire et nette, et aujourd'hui elle est très très positive, c'est-à-dire que la Chine dit, voilà, à partir du Xinjiang, puisque c'est ma frontière avec toutes ces républiques de l'Asie centrale, j'apporte la prospérité à toute l'Asie centrale. Et donc j'ai la riposte massive, géostratégique, géopolitique, à cette tentative des États-Unis de me faire des misères. Voilà ce que je voulais vous dire avant que vous écoutiez, donc tranquillement, Aymeric Bonville vous parler de sa visite au Xinjiang. Bonne écoute! Thank you.